France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, son seul nom évoque parfois avec inquiétude une modernité et une avant-garde conquérante, belliqueuse, intransigeante. Pierre Boulez reste en effet, notamment pour le néophyte, le symbole d'une musique dite contemporaine, exclusivement tournée vers l'avenir, sourde aux échos du passé. Boulez, celui qui voulait faire brûler les maisons d'opéra, fut-il vraiment l'homme de la table rase, et ce, dès ses débuts. C'est en se penchant sur sa première sonate pour piano, commencée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que François Memmoun, mon invité, reconsidère l'environnement culturel et musical d'alors pour repérer les influences, les préférences, les orientations esthétiques du Boulez de 20 ans et, à l'occasion, rétablir certaines vérités. La construction du langage musical de Pierre Boulez, la première sonate pour piano de François Memmoun, publiée aux éditions Edam Musicae. Fantasque, modéré, très vif et enfin assez lent, c'était les trois premières notations pour piano de Pierre Boulez, interprétées par Chen Pixian. Bonjour François Memmoun.
Bonjour.
Vous êtes compositeur et musicologue et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et vous êtes donc l'auteur de ce livre consacré à la construction du langage musical de Pierre Boulez. Le jeune Pierre Boulez, en tout cas les débuts de Pierre Boulez compositeur, c'est manifestement un sujet qui vous suit depuis des années, puisque vous y avez déjà consacré un livre il y a des années.
Tout à fait, il y avait un petit livre d'entretien qui était paru en 2010, mais qui était en fait un peu le démarrage de ce travail de recherche,
ouais.
Et qui m'avait amené à parler directement avec Pierre Boulez, mais déjà en relation avec cette recherche que je menais sur la jeunesse de Pierre Boulez.
Et alors, qu'est-ce qui vous a paru intéressant dans cette démarche et dans cette rencontre avec la musique et les débuts de Pierre Boulez? Alors, pour ce faire, dans votre livre, vous retracez de façon très complète le contexte, l'univers musical dans lequel a évolué le jeune Boulez. On le rappelle, il est en 1925 et qui étudie très jeune le piano, qui va se perfectionner à Lyon et finalement, sa carrière de pianiste va vite tourner court.
Oui, tout à fait.
Et il va alors aller à Paris et s'orienter vers la composition.
Tout à fait. Avec Messiaen, oui.
Voilà, en fréquentant entre autres la classe d'analyse de Messiaen avant la fin de la guerre. Alors, vous avez présenté les différentes personnalités autour desquels le jeune Boulez a évolué.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait une... Quand j'étais étudiant au conservatoire, moi-même, avant d'y être professeur, il y avait une idéologie très forte autour de Pierre Boulez dans les années 2000.
Ça a changé ?
Oui, ça a changé. Oui, surtout chez mes étudiants, ça a beaucoup changé, je vois. Mais dans les années 2000, c'était très fort. Dans les années 2000, vous étiez vraiment dans le moment de la pleine puissance du pouvoir de Boulez sur l'institution, mais aussi une puissance symbolique. Et je remarquais qu'il y avait vraiment, un peu comme pour le communisme ou les grandes idéologies politiques, les pros et les anti. Et j'avoue que je n'étais ni convaincu par les arguments des uns, ni par les arguments des autres. Et j'ai voulu, effectivement, comme vous le dites, aller y voir de plus près, en prenant comme texte de départ la première sonate, tout simplement parce que, d'abord, elle n'avait pas été traitée vraiment d'un point de vue musicologique, et parce que c'est une œuvre emblématique de ce qui a été avancé comme symbole de la modernité, de l'avant-garde, de la table rase, tous ces concepts auxquels je ne demandais qu'à y croire, mais en fait le travail de recherche a permis, j'espère, de contribuer à montrer qu'en fait Boulez est pétri de mémoire, de tradition, comme un autre compositeur.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est comme un livre assez épais, plus de 300 pages pour une dizaine de minutes de musique.
Tout à fait. Oui.
Peut-être faut-il reciter, on a parlé déjà de Messiaen, il reste en fait pas très très longtemps dans la classe de Messiaen, c'est quelques mois.
Son année de, parce qu'il a été élève en harmonie, il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que Pierre Boulez, qui a fait l'immense carrière qu'on connaît, n'a pour simple et unique diplôme qu'un prix d'harmonie. Il a terminé au Collège de France, donc c'est une belle trajectoire. Donc c'est le seul enseignement qu'il ait vraiment suivi officiellement et jusqu'au bout. Il a suivi la classe un peu de fugue au conservatoire, mais il s'est fait renvoyer. Il a suivi la classe d'Onde Marteneau aussi, ce qu'on sait moins.
Et il est devenu finalement un virtuose.
Exactement, il joue aux Folies Bergères, tout à fait, pour gagner sa vie.
Et il a même composé un
quatuor. Tout à fait, il a composé des œuvres pour Onde Marteneau, je l'évoque dans le livre. C'est un instrument après qu'il a rejeté, parce que c'est ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est ce qui nous paraît aujourd'hui assez désuet comme sonorité, était vraiment la Ferrari acoustique de l'époque. Donc Boulez tombe vraiment, est extrêmement intéressé par cet instrument pendant un temps. D'ailleurs, en ce sens, il est tout à fait dans son temps, puisque bien avant lui, Messiaen, Jolivet avaient écrit pour les Ondes Marteneau dès les années 1930. Hein. Donc il y a vraiment, Boulez est tout à fait dans la tradition pour ce côté-là aussi. C'est Messiaen qui l'a éveillé à ces sonorités-là, hein. Tout à fait.
D'après les témoignages que vous avez pu recueillir, la relation entre Boulez et Messiaen se passe bien et plutôt positive dans un premier temps. Et Boulez dit que Messiaen n'imposait aucun style à ses élèves, mais au contraire, leur ouvrait un horizon des perspectives très larges.
Oui, alors là, c'est un point d'achoppement avec ce que Boulez a dit. Moi, je l'ai interrogé plusieurs fois. Il y a des propos avec lesquels je reste assez distant et critique. Je suis au contraire assez persuadé que Messiaen, avait une sorte de couverture pour reprendre le titre de votre émission, de liberté, mais qu'au fond, il exerçait quand même une forme d'aura, voire de coercition un peu souterraine. Je pense que Boulez a été profondément marqué par Messiaen et qu'il s'en est d'autant plus détaché que son héritage a été presque contraignant.
Thank you.
La maîtrise de Radio France, l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung Moon Chung, c'était la dernière des trois petites liturgies de la présence divine d'Olivier Messiaen. François Mémoun, on entend d'ailleurs dans cet extrait les ondes Martenot que l'on a évoquées précédemment. Donc on vient de voir Messiaen, auprès de qui Pierre Boulez, le jeune Pierre Boulez de 20 ans arrivé donc de sa province, prend des cours au conservatoire, mais il y a à côté de ça des cours privés auprès d'autres maîtres.
Et beaucoup de cours privés. Des cours privés de piano, puisque Boulez n'a pas renoncé tout de suite à sa carrière de pianiste. Bon, des cours privés aussi avec Honegger, alors avec sa femme aussi, où il a pris des cours de contrepoint, avec Leibowitz.
La femme de Honegger,
André Vorabourg, qui a été une personnalité très importante pour Boulez. Et d'ailleurs, on sait peu que Boulez n'a jamais dit un mot désagréable sur Honegger. Et même, il y a un texte de 58 où il rend hommage à la modernité de Honegger. Probablement qu'il a, ils se sont rencontrés d'ailleurs autour des partitions de Boulez, et il a reçu des conseils, des remarques de Honegger, qui, au dire de Boulez, quand je l'ai interrogé, était très factuel, très minime. Mais enfin, il y a eu cette relation qui est intéressante, parce que Honegger, a priori, est très très loin de l'univers de Pierre Boulez.
Mais est-ce que c'était quand même sortir, puisque nous sommes là, Pierre, François Mémoun, dans les années 1945-46, est-ce que Honegger était encore une des figures de la modernité à cette époque?
Alors, il l'a été avant, il a comment dirais-je, était assez actif pendant la collaboration en écrivant dans le journal Comédia, et ça lui a fait une libération difficile, mais enfin, c'était mérité qu'elle soit difficile, parce que bon, il n'a pas eu un comportement tout à fait exemplaire. Je pense que l'aura de Honegger restait. Il suffit de voir les lettres de Poulenc sur Honegger, qui sont très très élogieuses. Mais il était probablement un musicien assez accessible pour les jeunes qui voulaient le voir. Et je crois que André Vorabourg a décelé en Pierre Boulez le contrapuntiste d'exception, puisque il y a toute une mythologie autour d'un fleuri à huit qu'elle aurait accroché. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, Pierre Boulez a été un virtuose des disciplines d'écriture. Il a obtenu son premier prix d'harmonie en un an, ce qui était très rare, et de la manière la plus prestigieuse qui soit. Il est un virtuose aussi dans toutes les disciplines du contrepoint. Il est vraiment, autant ses études instrumentales sont un peu mis sur le côté, autant en matière d'écriture académique, il est vraiment extrêmement extrêmement doué. Et ça, c'est unanime, il n'y a pas d'ombre à porter là-dessus du tout.
Et du point de vue du langage, alors quelle est l'autre ou les autres personnalités qui ont influencé le jeune Boulez de 20 ans, François Mémoun?
Justement, moi c'était une chose qui m'a intéressé, c'est que lorsque je suis allé rencontrer, j'ai voulu lui poser la question, mais c'est sous l'occupation, puisque il choisit de devenir compositeur en 42-43, puisqu'avant il fait des études de mathématiques, et en plus il n'est pas à Paris. Donc moi j'étais assez intéressé, comment on attrape des questions de modernité dans un tel climat. Donc ses références au départ sont au gré des programmations. Donc il va à Lyon, il voit, il entend la musique d'Honegger, il est intéressé par Szymanowski aussi, qui va rediriger...
À la fin de sa carrière de chef.
Je crois qu'il découvre... et puis avec La Libération, il va découvrir énormément de musique, avec Boris de Schlosser qui lui fait découvrir Scriabine et Gesualdo, avec Messiaen qui lui fait découvrir énormément de musique, ça prendrait une émission entière. Ouais. Et avec Leibowitz, qui découvre tout à fait par hasard, parce que Boulez est vraiment une sorte d'animal qui cherche partout des élans de modernité. Donc à la fois dans les concerts officiels il va, mais en même temps il va dans les petits concerts chez des comtes ou chez des mécènes, et il découvre Leibowitz en 40-45 avec la suite opus 26 de Schoenberg. Et là il a, selon son expression, une illumination vraiment d'un nouveau langage, parce que effectivement avant de 42 à 45 son langage est tout à fait composite. Mais ça, on peut pas lui en faire le reproche. Mozart lui-même, vous le savez mieux que, a un langage aussi fait de ce qui se passe à Mannheim, à Paris. Enfin, vous voyez, c'est un langage très composite. Il faut attendre l'âge de 20-25 ans pour que Mozart se trouve lui-même. Donc, en ce sens, il a une trajectoire d'un jeune compositeur qui essaye de faire une chimie de tout ce qu'il reçoit.
Est-ce que c'est une raison pour laquelle François Mémoun, Pierre Boulez, a refusé de publier ses premiers essais, comme on a entendu tout à l'heure, 3 des 12 notations qui sont vraiment le numéro 1 sur son catalogue. Mais il y avait auparavant des mélodies, il y avait aussi 3 psalmodies, le quatuor pour Ondes Martenot qu'on a évoqué.
Alors, il était très ambivalent parce que moi, il ne m'a jamais empêché d'accéder à ses pré-œuvres, si vous voulez. J'ai même fait des lettres de recommandation pour que je puisse avoir le manuscrit chez moi pour pouvoir travailler, parce que sinon ça aurait été compliqué. J'ai eu le Quatuor pour Marteneau. Tout, donc, l'accès était rendu possible. En revanche, il refusait catégoriquement que ce soit joué. En disque ou en concert, ce qui d'ailleurs maintenant qu'il n'est plus là,
ce que j'allais vous demander, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui alors?
Eh ben maintenant il y a des interprètes qui commencent à le faire. Par exemple, il y a une pièce de variation pour la main gauche, qui est 1944 je crois de mémoire, qui vient d'être enregistrée. Et alors là, vous avez les gardiens du temple, on voit bien même sur les réseaux sociaux, sur les pages Pierre Boulez, qui disent ça n'a aucun intérêt. Moi je trouve que ça a un intérêt incroyable. Enfin c'est comme les menuets de Mozart de sa jeunesse. Enfin aller déceler ce qui est déjà Mozart avant d'être Mozart, je crois au contraire extrêmement intéressant. Et dans les premières œuvres de Boulez auxquelles j'ai pu me référer, 43, on voit déjà des choses de Boulez. Enfin ça c'est vraiment très 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 étonnant.
Paavali Jumppanen interprétait le début de l'an, le premier des deux mouvements de la sonate pour piano numéro 1 de Pierre Boulez. Alors, François Memoun, cette sonate a été élaborée à partir de 1946, mais elle a connu plusieurs étapes, plusieurs versions, ce qui, quand on connaît Boulez, n'est pas vraiment très très étonnant. On a envie de dire, déjà à l'époque, il remettait sur le métier sa musique, mais c'est étonnant pour un jeune compositeur qui, on l'a compris, vous l'avez dit, recherchait tout ce qui était, entre énormes guillemets, moderne et d'avant-garde, de s'atteler à un genre qui est extrêmement connoté, si ce n'est le plus connoté, à savoir la sonate, tellement marquée par l'histoire de la musique. Est-ce que c'était vraiment le meilleur vecteur de la modernité?
Alors c'est une question fondamentale et je n'ai pas trouvé de réponse.
Du maître.
Et je lui ai posé la question, et sa réponse était évasive, je m'en rappelle, hein, c'était un moyen pour lui de s'organiser. Je crois en fait que Boulez avait très peur de rester confiné dans les petites formes. Et c'est la peur qu'avait Schumann. Il y a des compositeurs qui sont à l'aise dans la forme brève.
Bien sûr, ouais.
Et je crois que Boulez a ressenti ce risque-là. Il voyait qu'avec le système sériel, il voulait pas faire comme Webern, je crois. Hein. Il se rendait compte que ça durait une page, deux pages. Et la sonate, à la fois comme terme, le mot sonate, mais aussi comme puissance d'organisation, avec l'exposition, le développement, la réexposition.
Ouais, ouais.
Même si ça ne se pose pas de la même manière que dans une sonate de Beethoven ou de Chopin, lui permettait quand même de lui donner un socle d'organisation. Et ça lui permettait de développer son langage. C'est une sorte d'architecture de base qui probablement le rassurait tout simplement. Mmh. Et sa réponse de mémoire était que c'était pour... il avait choisi cette forme pour avoir un cadre. Tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Et je crois que c'est juste, hein, c'est tout à fait ça.
Et ce qui restera sans doute un de ses axes formels, le recherche d'une architecture, vous venez de dire le mot, pour organiser sa pensée.
Tout à fait.
Ouais.
Et je crois vraiment qu'il avait cette inquiétude de rester dans la forme brève. Il a voulu s'en extraire et il a réussi puisque après tout au long de sa carrière, ses œuvres, à part quelques comme Dérif 1 qui dure 5 minutes, mais les notations aussi pour orchestre sont brèves, mais il a réussi quand même à conquérir la grande forme jusqu'à Réponse qui dure 40-45 minutes. Mais ça c'est une vous avez ça chez Schoenberg aussi, hein, les très très petites pièces et en même temps les Gourlieder qui durent 2 heures.
Ouais.
Donc les compositeurs sont attentifs à cette question formelle.
Alors c'est Pierre Boulez lui-même qui je crois créé la toute première version en 46
chez Desormières, chez le chef d'orchestre Roger Desormières, qui était un soutien de Pierre Boulez auquel il est resté fidèle toute sa vie et qui effectivement le permettait d'avoir un cadre pour jouer ses œuvres en élaboration.
Ouais. Et par la suite, François Mémoun, vous avez eu accès aux différents manuscrits de la sonate et vous vous êtes rendu compte que
je me suis rendu compte que d'abord l'œuvre n'était pas écrite en 46 mais commencée en 46.
Ouais.
Ensuite, deuxième chose qui était intéressante, c'est l'aspect physique de Boulez à la partition. C'est vraiment pas du tout de l'intellectualisme désincarné. C'est vraiment des gommages, des ratures, enfin des ratures mais monstrueuses, enfin qui. Et donc c'est un rapport extrêmement charnel physique, si on peut dire, pas charnel mais physique aux matériaux. Et troisième chose intéressante, c'est de voir à quel point il a enlevé il a enlevé un nombre considérable de matériaux dont il avait hérité de Jolivet ou de Messiaen et dont il ne voulait plus à un certain moment que ces matériaux-là soient décelables en tant que tels.
Du rondo au final du quintet pour vent plus 26 d'Arnold Schoenberg par l'ensemble instrumental à Vent de Paris enregistrement historique de 1961, le premier enregistrement de l'œuvre, puisque nous sommes dans l'histoire justement avec vous, François Mémoun. Nous avons évoqué brièvement, évidemment, mais pour cela il faut se plonger dans votre livre pour en savoir davantage, les influences musicales, mais il y a, vous évoquez également les influences littéraires avec notamment deux auteurs fondamentaux pour Pierre Boulez.
Oui, il y a eu Artaud et Charles. Et ce qui est intéressant, c'est que l'un était pour Boulez l'expression du délire.
Artaud, évidemment.
Qu'il a vu en action. Oui. Il m'a raconté d'ailleurs, c'était une chose impressionnante. Et Char, qui au contraire, l'hyperstylisation.
Donc il va mettre très vite la poésie en musique.
Exactement. Mm-hmm. Et je pense que ça synthétise bien l'univers de Boulez, à la fois cette volonté d'exprimer le délire, dans ses textes aussi, il en parle, hein, dans les textes qu'il écrit dans ces années-là, et en même temps une volonté de contrôler au maximum le matériau. Et d'un point de vue littéraire, il est vraiment marqué durablement par ces deux figures-là. Et il va les rencontrer tous deux. Enfin, Artaud, il va pas le rencontrer directement. Il va le voir. Et avec Char, il va aller le voir en 47. Et ils vont. Il y a une correspondance d'ailleurs qui est extrêmement intéressante, dont je me suis servi pour le livre, entre les deux hommes.
Même si Boulez disait qu'apparemment René Char n'était pas très sensible, voire pas du tout à la musique.
Oui, mais Boulez ne peut pas s'empêcher de dire du mal des gens, même des gens qui ont fait beaucoup nature pour lui. c'est vrai qu'il a dit ça. Mais cela dit, quand on voit les lettres de Char à Boulez, elles sont très généreuses. Il ne faut pas oublier que Boulez était un parfait inconnu en 47 et Char, non seulement un héros de la guerre, mais en plus un écrivain. Plus qu'installé, donc il faut remettre à leur juste place les propos de 47.
Très bien, merci beaucoup François Mémoun. Je rappelle le titre de votre livre, La construction du langage musical de Pierre Boulez, la première sonate pour piano, qui vient de paraître aux éditions Edam Musicae. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Claire Levasseur, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Chantal Cazot et nous parlerons de Rossini, un tout autre univers. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.